cela que je vous demande de vous en aller ce matin dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Exode au chapitre 14. Ouais, je l'ai mis à on. Ouais, moi en tout cas, de mon côté, je suis à on. Ou c'est peut-être, parce que je ne suis pas amplifié en ce moment. Hein?
Non.
C'est-tu la machine à côté de toi? Est-ce que tout est allumé? Parce que d'habitude, c'est ça. Ça sort dans, là, je ne m'entends pas dans les haut-parleurs, ni les bas-parleurs non plus. Sinon, ce que je peux faire. Ah, ben oui, OK. S'il y a quelqu'un qui connaît un peu le système de son, allez juste voir, assister, si vous pouvez pas donner un petit coup de main, être sûr qu'il y a des bons pitons. La 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 la. Na 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 na. Ce petit délai technique ne devrait pas durer trop longtemps. Là, je sais pas si je change aux vidéos et que j'ai pas de son, là. Mais en tout cas. Ouais. Ah! OK. OK. Là, je suis amplifié. OK, là, c'est bon. Good. OK. Bon, de toute façon, même si je ne suis pas amplifié, c'est pas grave. Tout le monde peut m'entendre. M'entendez-vous en arrière?
M'entendez-vous en arrière?
Non. OK. Et regardez ce qu'on va faire. On va juste lire quelques petits versets pour s'introduire. Puis à travers le message, on va voir différents épisodes qui nous amènent à ce point central. Puis même par après. Et donc là, c'est beau. Là, je peux y aller en toute confiance. Good. Merci, Nathanaël. Je suis content que tu sois là. Puis que tu t'occupes du son. Et de l'image. On dit pas de son, pas d'image. Il y avait de l'image, mais pas de son. Verset, on est dans Exode 14, versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Wow, Seigneur, juste dans ces versets-là, il y aurait tellement de choses qu'on pourrait considérer ensemble. On va faire au-delà de ça, mais merci que tu es le Dieu des délivrances et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es l'Éternel, tu ne changes pas. Seigneur, tu peux encore ouvrir les mers rouges qui sont devant nous. Tu es encore ce Dieu qui nous rencontre là où c'est impossible de trouver une issue. Donc, Seigneur, on veut regarder à toi aujourd'hui avec cette foi qui se repose en toi, dans qui tu es et dans la plus grande délivrance, celle de la croix, celle qui est éternelle, celle qui a même assujetti tout le monde spirituel. Et Seigneur, il n'y a rien qui ne t'est assujetti. Merci que tu es le grand vainqueur sur tous tes ennemis. Ils ne sont pas encore tous sous ton marchepied, mais Seigneur, on sait que ce n'est qu'une question de temps. Donc, on regarde à toi et merci qu'on peut prendre ce temps ce matin, comme ça, ensemble, dans ta parole. On s'en remet à toi pour tes bons plans bienveillants pour chacun de nous et pour notre Église. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on va considérer ensemble la fidélité du Dieu des délivrances. Évidemment, il y a un aspect spectaculaire, il y a vraiment, il y a sûrement plus qu'un film. Il y a un film très connu avec Charlton Heston, là, les 10 commandements, là, puis la main rouge. Bon. Mais au-delà de ça, j'aimerais qu'on voit que ce texte nous révèle le Dieu des délivrances, le Dieu qui délivre par sa présence, par sa puissance, suffisante, dans tous les moments de la vie, spécialement dans les moments de crise, comme ça en était ici. Parce qu'il est le Dieu qui transforme le mal en bien. Et il est aussi le Dieu qui orchestre les circonstances. Et Dieu, on l'a vu au début du chapitre 14, Dieu leur a fait un détour, puis il les a emmenés précisément là. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Oups, Dieu avait oublié de leur dire où aller. Non, c'est Dieu qui précisément leur a dit, allez à cet endroit-là. C'était sa volonté parfaite pour eux autres, parce qu'il voulait accomplir non seulement cette grande délivrance, mais se révéler à deux reprises. On dit, ils vont savoir que je suis l'Éternel, je vais faire éclater ma gloire. Et donc, on va considérer un peu toutes les implications de ça. Ici, vous savez, on y va avec la vie de différentes personnes dans le mois de juin. On avait, la semaine dernière, on avait dans le livre de la Genèse Abraham. Aujourd'hui, on a Moïse, la semaine prochaine, David, puis Marie, pour terminer. Si Dieu le veut, on va tout considérer cette personne-là, ces personnes-là. Mais j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui cette histoire pour qu'on puisse s'en inspirer confiance et dépendance à Dieu, que Dieu est capable de nous amener, de nous soutenir, de nous délivrer dans toutes circonstances qu'il permet dans nos vies, même dans les pires oppositions. Donc, on va regarder ensemble trois manifestations du Dieu des délivrances. Gardez votre place ici dans Exode 13, mais on va reculer juste un petit peu dans le même livre, au chapitre 3, où tout ça a un peu commencé, si vous voulez. Bon, ça a commencé avant, on pourrait dire, parce que c'est l'histoire de la rédemption. Mais en ce qui a trait à Moïse et comment Dieu s'est révélé à lui, on va prendre l'histoire à partir du chapitre 3, verset 7, où est-ce que là, Dieu s'adresse à Moïse, hein, c'est l'appel de Moïse, avec le buisson ardent et tout, vous connaissez l'histoire, mais je veux surtout voir avec vous ici, au verset 7, que l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, ses oppresseurs, pardon, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans le bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens et les autres. » OK? Parce que, bon, on peut bien les lire si vous voulez, là, mais c'est tous des noms durs à prononcer. « Voici ces cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir des Égyptiens. Maintenant, « va, et je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Donc, avant même la délivrance, Dieu voit le besoin de délivrance. C'est notre premier point. Dieu se manifeste en étant celui qui voit le besoin de délivrance. Et remarquez ici comment Dieu a compassion des affligés. Il dit « J'ai vu leur affliction, j'ai entendu leur cri. » OK? Donc, il a vu, il a entendu, il a été ému de compassion, il est intervenu à cause de ça. Et Dieu, dans sa fidélité, montre d'abord qu'il est présent dans notre misère, face à notre misère, mais aussi dans notre misère. Et aussi, il est fidèle à intervenir, non seulement à être ému de compassion et touché par nos besoins, mais ça dit aussi « Je suis descendu » pour délivrer, on a vu ça dans le passage, et pour les faire remonter. Hey, avez-vous vu la croix dans ce qu'on a vu là? OK, je vous l'explique. Écoutez bien. Il a été ému de compassion, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. OK? Donc, sa compassion qu'il a eu comme ça pour les Égyptiens, évidemment, on voit la culmination dans la venue de Jésus, mais aussi, ça dit qu'il est descendu. C'est l'incarnation. Dieu est venu à nous dans la personne de Jésus. Puis pour le faire remonter, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il nous a fait remonter des ténèbres. C'est une image de la croix. N'est-ce pas que c'est merveilleux? L'Ancien Testament, c'est des ombres qui sont tous accomplies en Jésus. Il est descendu pour faire remonter. C'est quand même spécial. Et évidemment, on fait partie de ça en tant qu'enfant de Dieu lorsque on a reçu Jésus comme notre sauveur personnel. Et pour nous, ben, on a le meilleur de tout ça, comme notre frère nous l'a fait souligner dans Hébreux. On a les choses meilleures qui sont là pour nous. On a les plus grandes et les plus précieuses promesses qui sont accomplies en Jésus, le Fils de Dieu qui est venu à nous. Et Dieu, dans son amour, nous en fait bénéficier à 100% pleinement, dès maintenant. Et c'est vrai ça, au moment, quand on a été sauvé, si vous êtes ici, vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, vous avez été délivré de la pénalité du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne tient plus rigueur d'aucun de vos péchés, passé, présent et à venir. C'est lavé dans le sang de Jésus. Mais même encore plus, parce que dans cette vie, quand on est un enfant de Dieu, Dieu nous délivre de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, c'est merveilleux. C'est une délivrance complète. La Bible nous dit, le péché n'aura point de puissance sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Dieu dit ça à ses enfants dans Romains 6, 14, par rapport à la puissance du péché. Donc, c'est une délivrance complète. Et vous rappelez-vous que je vous ai dit la semaine dernière qu'on va considérer des lettres. Ça fait tout le temps drôle quand je dis ça, parce que je pense tout le temps à tes lettres. Là, je n'ai pas dit ça à personne. J'ai essayé de ne pas regarder personne en le disant. Mais lettre, L-E-T, let this light, let this... En anglais, on dit, mais en français, souvent, c'est que. Fait que ça se traduit mal, mais c'est vraiment intéressant parce que la vie chrétienne, c'est pas par rapport à get, mais à let. C'est pas qu'on essaye d'avoir des affaires, on a déjà tout pleinement en Jésus, donc maintenant, laissez ces choses s'accomplir et laissez-les avoir leur cours, OK? C'est dur à traduire, mais je pense que vous avez l'idée. Fait que là, on considère ensemble quelques lettres, quelques que, dans la parole de Dieu. Fait que là, avec ce qu'on a vu, Dieu, la délivrance, OK? Qui voit le besoin de délivrance. Qu'est-ce que ça dit dans Philippiens 2:5? Quelqu'un le connaît par cœur, celle-là? Ah, c'est facile. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Let. Puis là, en anglais, ça dit let this mind. En français, ça dit les sentiments. Ayez en vous les sentiments. Un coup d'œil. Nous, les Québécois, les Français, on est des sentimentalistes, puis on a des émotions, puis les Anglais, eux autres, sont cérébraux. En fait, ben, peut-être que c'est un reflet un peu culturel, mais c'est parce que le mot original qui est traduit, le mot phronéo, ben, c'est un mot qui englobe un peu tout ça. Parce qu'en français, quand on parle de sentiment, c'est pas juste au niveau émotionnel, ça peut être une disposition. C'est ça l'idée, je pense, que Louis II a voulu communiquer. Puis en anglais, avec l'idée de this mind, ça fait aussi partie du package deal. Mais on pourrait dire, c'est vraiment, ayez en vous cette attitude, cette mentalité, cette disposition qui était en Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose de global. C'est une expression riche qui fait pas juste référence à penser à quelque chose ou à avoir des émotions par rapport à quelque chose, mais c'est plutôt une disposition, comme je disais, globale, mais volontaire, qui vient lorsque non seulement on comprend des choses par rapport à Dieu, mais lorsqu'on les croit. Donc, ayez en vous la même disposition que Jésus avait. Jésus était le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y avait? Jésus a laissé toute cette gloire d'être le Dieu éternel. Puis, il n'a pas regardé ces choses comme une proie arrachée, mais il est devenu un homme. Il est même devenu un esclave. Il est allé même jusqu'à la mort de la croix. C'était ça la disposition qui était en Jésus. Et la Bible nous dit, ayez cette disposition d'humilité. Ayez la posture, la mentalité, la disposition joyeuse et volontaire qui s'est manifesté dans la personne de Jésus lorsqu'il est venu à nous. Cette humilité. Et je dirais que, pour nous, c'est d'être simplement réaliste et honnête par rapport à nos afflictions et notre besoin de Dieu. Et il est senti... Jésus, là, savez-vous quoi? Il prétendait pas, quand il était sur terre, là, il était dépendant du Père constamment. Des fois, on peut avoir de la misère à comprendre. Ouais, mais Jésus... C'est Dieu, tu sais. Pour lui, c'était facile. Non, non, Jésus, dans son incarnation, s'est limité. Et il était totalement dépendant de son Père. Et donc, sa disposition, c'est Dieu, je vais dépendre de toi en toutes choses, même jusqu'à la croix. C'est pour ça que dans le jardin, il a prié, si cette coupe peut s'éloigner, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est vraiment une expression très forte de tout ce que je vous explique là, cette attitude, cette mentalité. Jésus était réaliste, OK, c'est incroyable ce que je vais vivre, c'est effroyable. Mais Dieu, je m'en remets à toi. Je dépends de toi. Et je vais y aller jusqu'à la croix. Parce que pour nous, la croix, on voit, oui, Jésus qui souffre et tout ça, mais Jésus, sa compréhension de tout ça, ça nous dépasse parce que lui qui est en communion parfaite avec le Père, cette communion, elle va être brisée. On ne peut pas comprendre cette souffrance, toute la frayeur qu'il pouvait avoir devant lui avec ça. OK? Mais Dieu nous dit, ayez cette même mentalité. Donc, face à nos afflictions, à ce qui nous fait peur, essayons pas de faire nos spirituels. Soyons réalistes. Dieu, j'ai peur. Dieu, c'est trop pour moi. Dieu, c'est impossible. Mais toi, tu vois mon affliction, tu vois ma faiblesse et je suis dépendant de toi. Que ta volonté se fasse. OK? C'est une première leçon qu'on peut voir avec Dieu qui voit le besoin. Savez-vous quoi? Dieu, là, il n'a pas besoin d'être informé du besoin. On va voir dans le troisième point. Là. Il connaît nos besoins. Mais dans son plan, il veut qu'on arrive à lui et qu'on y exprime ce besoin, qu'on ait cette disposition. C'est ça l'idée des sentiments qui est en Jésus-Christ. Ayons cette humilité d'aller à Dieu et d'être réaliste de Dieu. Ça, c'est trop pour moi, mais toi, tu es suffisant. Mais toi. OK? C'est notre première leçon avec Dieu qui voit le besoin de délivrance, mais aussi, et là, c'est là qu'on va dans notre texte principal, dans Exode 14, vous pouvez retourner là, les versets 13 et 14, Dieu délivre de l'impossible. Dieu délivre de l'impossible. Et on va relire les versets 13 à 14, parce que c'est tellement des versets puissants de la parole. Moïse dit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance. » C'est pas délivrer, là, c'est regarder la délivrance. C'est Dieu qui le fait, hein? « Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Je ne sais pas ce qui était le plus dur, de rester là et de ne pas bouger ou juste de garder le silence. Et que ça devait vouloir pas mal ressortir tout ce qu'il y avait en dedans. « Oui, mais... » On a-tu des « oui, mais » des fois? « Ah, Dieu, je sais que tu veux que je te fasse confiance, puis cette situation-là, c'est toi qui l'as amenée dans ma vie. Oui, mais... » Tu sais, garder le silence des fois. Mais ce qui fait qu'on peut garder le silence, c'est quand on croit que Dieu délivre de l'impossible. Voulez-vous qu'on regarde ça ensemble un petit peu? Dieu délivre de l'impossible. Dieu est celui qui a placé, on l'a vu, ça aussi est sorti dans le temps de prière, c'est lui qui les a placés dans cette situation impossible. C'est lui qui leur a fait passer par le chemin pour arriver exactement à ce point-là, afin de se révéler comme étant le Dieu qui délivre de l'impossible. Il voulait se manifester. Il voulait se révéler dans ce contexte précis. C'était pas un hasard. Puis, on pourrait dire, bon, pour eux autres, mais aussi pour nous autres, pourquoi Dieu nous amène à ces points-là dans notre vie où est-ce que c'est juste impossible? Il n'y a pas d'issue. Puis là, je vous le dis, même géographiquement, là, désert d'un bord, mer de l'autre, puis égyptien de l'autre. Il n'y avait pas d'issue. La seule issue qu'il y avait, c'était la mer, mais même là, il fallait que Dieu intervienne. C'était une issue, mais à condition que Dieu intervienne, à condition qu'il y ait la délivrance. Et Dieu nous amène à ces points-là où est-ce qu'on essaie de trouver une façon d'un bord, une façon de l'autre. Dieu, la seule façon qui semble celle qui est plausible, ben quand même impossible. Il faut que tu fasses de quoi, Dieu? Il faut que tu interviennes. Et Dieu veut ça. Il désire nous amener dans des positions comme ça parce que c'est comme ça qu'il révèle qu'il est le Dieu qui délivre de l'impossible. Et ici, il dit garder le silence. Jésus a dit à ses disciples, dans un moment vraiment de l'impossible, là, juste, vous savez, dans Jean, comment c'est fait, il y a le discours de la chambre haute qui était un moment culminant dans la tension et dans le stress que pouvait représenter tout le ministère de Jésus puis sa venue sur terre. Puis là, vraiment, c'était quelques heures avant la croix. Dans Jean 14:1, qu'est-ce que Jésus dit? « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » « Let not your heart be troubled. » OK? Que votre cœur. Ce n'est un autre « let », mais ici c'est négatif. Qu'il ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Le mot pour « trouble », c'est le mot grec « tarasso » qui veut, ça parle d'être secoué ou agité. Tu sais, que votre cœur ne soit pas tout comme ça, là. OK? C'est l'idée. Des fois, c'est imagé comme ça, surtout dans l'hébreu, mais aussi des fois dans le grec. Tu sais, comme « shaker », là, comme... Si tu prends quelque chose puis tu le brasses comme ça, mais ce que ça l'invoque comme mot, c'est la confusion intérieure. Tu sais, t'es en dedans, puis là, t'es tout trouble en dedans, puis t'es pas capable. Tu sais, de l'eau qui est calme versus de l'eau que tu shakes, l'eau est pas calme. Tu sais, en dedans, là, tu sens pas que c'est calme, c'est oh, ça brasse de tout bord, de tout côté. Donc, c'est pas comme l'idée d'avoir peur de l'avenir pour quelque chose, c'est plus dans le moment, en dedans, je me sens tout à l'envers. C'est ça l'idée de ce mot-là, une espèce de confusion, d'agitation intérieure. Donc, Jésus, il dit, OK, ça, c'est le trouble, mais là, il dit, soyez pas comme ça. Let not. Que votre cœur ne se trouble point comme ça. Donc, en dedans, ça veut tout brasser avec ce qu'on est en train de vivre. Puis, Jésus, qu'est-ce qu'il dit quand il dit que votre cœur ne se trouble pas? Il prend un mot militaire. C'est comme un commandement d'un supérieur dans l'armée qui dit, OK, tu vas garder cet endroit-là. Jésus, il dit, gardez votre cœur, soyez comme un soldat à côté de votre cœur pour ne pas laisser votre cœur arriver dans cette position-là, d'être tout troublé et tout ça, OK? Autrement dit, je pense que Dieu nous dit d'exercer une autorité sur notre état intérieur, émotionnel, de nos pensées, de monter la garde à l'entrée de nos cœurs, de nos pensées, pour ne pas qu'on arrive à ce point d'agitation et d'énervement. Et ça a tellement rapport avec le contexte Imaginez-vous, là, Jésus, là, il est sur le bord d'être crucifié, puis il leur parle d'affaires assez épeurantes, merci, là. Je vais être livré, puis là, je vais aller à la croix, puis tout ça, puis eux autres, ça les dépasse, là. Fait que Jésus, il dit, OK, laissez pas ces choses toutes troublées en dedans. Et pensez-y, quand Dieu permet des circonstances dans notre vie, on a cette disposition facile à être toute troublée en dedans, à laisser ces choses, oh, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Puis ici, c'est pas l'idée que Dieu nous dit, ah, vas-y, essaie très fort. Non, dis, sois simplement par la foi à la porte de ton cœur pour pas laisser ces choses troubler ton cœur. Vous gardez le silence. De laisser la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. En fait, j'ai deux passages à vous amener là-dessus parce que c'est intéressant que tu aies amené ça parce que je dis tantôt je voulais l'amener, je vous l'amène dans un instant, mais vous savez, dans 2 Corinthiens 10, 5, ça dit que nous renversons les raisonnements et tout autant que s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On l'a vu, là, Dieu permet des circonstances pour se faire connaître. Okay? Mais là, il y a des choses là, qui se dressent contre le fait qu'on peut découvrir Dieu, le laisser pleinement se révéler à nous. Okay? Il y a des choses qui s'élèvent comme ça. Il y a des raisonnements, des forteresses okay? qui font obstacle. Dieu veut se révéler, mais là, il y a une guerre pour que je ne puisse pas voir Dieu dans toute sa splendeur. Je vais être voilé avec mes inquiétudes, mes peurs. Okay? Donc là, il y a des choses comme ça, mais qu'est-ce que... Ici, on vient de lire dans 2 Corinthiens. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça nous aide à comprendre, ça veut dire quoi tenir la garde. C'est pas d'essayer bien fort, tout, c'est de tout amener à la lumière de la croix. L'obéissance de Jésus. Et ça, ça va vraiment faire la différence. Puis là, avant de donner plus d'explications, Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. On a des besoins, c'est légitime, puis Dieu veut les entendre. Puis on fait ça par des prières, des supplications. Mais l'action de grâce, c'est de dire, OK, merci Dieu, tu m'as amené à cet endroit impossible parce que tu veux te révéler. Merci Dieu. C'est là qu'on a la paix de Dieu. C'est quand on dit, OK, Dieu, c'est impossible, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Mais merci, c'est exactement ce que tu veux pour te révéler. C'est ce que toi, tu as choisi. Donc, je te dis merci de façon éclairée et intelligente parce que je sais que c'est toi qui l'as voulu ainsi. Je ne te dis pas merci juste par parure. Je te le dis de cœur parce que je sais que c'est ton opportunité. Et c'est tellement un pattern qu'on voit dans la parole de Dieu. Tu sais, le fameux psaume, c'est drôle, c'est à deux psaumes, un après l'autre, 43, 42 et 43. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Tu sais, ça gémit, ça parle, ça fait du bruit au lieu d'être en silence devant l'Éternel. Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Donc, ces moments-là, c'est des appels de Dieu de dire, OK, j'essaie de vous mettre ensemble toutes ces choses-là pour dire, c'est le moment que Dieu a désigné pour qu'on saisisse par la foi ce que Dieu veut faire, puis surtout veut révéler sur lui. Puis que là, on puisse le connaître d'une façon qu'on ne le connaissait pas encore. C'est le moment où est-ce que Dieu nous dit, OK, là, ça, c'est une tentation qui t'est survenue. Elle est humaine, puis tu ne vas pas être tenté au-delà de ce que tu es capable, mais prends Jésus. Il y a le moyen d'en sortir. Regarde à la croix. Amène cette pensée à la lumière de la croix. Voyez-vous comment j'amène toutes ces pensées-là? L'impossible, c'est ça que Dieu fait. Il nous amène devant l'impossible pour qu'on saisisse Jésus, qu'on saisisse sa présence, qu'on saisisse sa grâce. Je vais essayer de vous amener tout ça un peu avec, bon, on parlait de la main rouge, le moyen d'en sortir. Jésus, c'est lui la séparation de la main rouge. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais tu sais, pour nous, vous savez, depuis quand même quelques années, notre situation familiale n'est pas évidente. Autant, puis je vous dirais, autant famille immédiate que même famille plus élargie, il y a toutes sortes de défis, puis je sais que pour beaucoup ici, c'est le cas également. C'est dur, des situations familiales, parce que même notre soeur partageait, tu sais, des fois, ça vient de même, puis on ne sait pas trop comment ça va aller, puis c'est des gens qu'on aime, puis on se soucie, puis c'est des gens proches, puis... Et c'est troublant, n'est-ce pas? Nos cœurs voudraient se troubler. Et c'est une source, je dirais, légitime d'inquiétude, hein? Où est-ce qu'on peut être brassé par en dedans, de toutes sortes de façons. Mais Dieu, moi quand je regarde, dans mon cas précisément, Dieu veut tout le temps me ramener, ce qui me ramène, là, parce que j'ai peur, j'ai des inquiétudes, puis OK, mais Dieu me ramène toujours à la croix, au fait que, OK, attends un peu. Premièrement, pour moi, je suis mort à ces inquiétudes. Je suis vivant à faire confiance. Ça, c'est mon moi réel. OK. Puis même, OK, Dieu aime ma famille. Il aime mes enfants. Il aime ma parenté. Fait que, déjà, ça, c'est réconfortant. C'est pas comme si Dieu est hostile puis il veut rien savoir. En fait, la misère qu'ils vivent, ça fait partie de l'amour de Dieu pour justement les arrêter dans la mort pour leur amener la vie. Ça calme, ça fait du bien, c'est apaisant. Et c'est ça l'idée de Dieu qui délivre de l'impossible. Dans les situations qu'il permet dans nos vies, comme j'aime le dire souvent, c'est le rendez-vous divin, c'est le rendez-vous de la foi. C'est là qu'on peut expérimenter le Dieu de l'impossible. Et donc, je ne sais pas c'est quoi ta mer rouge. Je ne sais pas c'est quoi ta situation impossible. Mais l'idée, où est ton espérance, où est ton refuge? C'est ça que Dieu veut. Dieu, il dit, regarde, c'est moi qui t'ai amené là parce que je veux me révéler. OK, Dieu, je vais te faire confiance. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est ça l'idée de tenir la garde. Dieu, je ne vais pas laisser ces pensées d'inquiétude, de peur, puis tu vas m'envahir. Je vais garder mon cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dieu, mon espérance est en toi. Oui, je t'ai battu, oui, c'est dur, mais Dieu, je vais espérer en toi. Parce que tu es fidèle. Tu es toujours fidèle et tu ne changes pas. Vous savez-vous quoi? Notre espérance est avec le dernier point pour aujourd'hui. Dieu là, nous amène là, puis il pourvoit. Ici, il a pourvu la délivrance, il a ouvert la mer rouge. Puis même plus loin, puis on va aller là ensemble pour notre troisième point. La troisième manifestation de Dieu ici, c'est dans le chapitre 16 au verset 4. Dieu est fidèle non seulement à avoir le besoin de délivrance, à délivrer de l'impossible, mais aussi il est fidèle à pourvoir. Chapitre 16, verset 4. Donc là, c'est dans la suite des choses, sont rendus de l'eau bord de la mer rouge. Et l'Éternel dit à Moïse, verset 4, « Voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'ils marcheront ou non selon ma loi. » Eh bien, je ne savais pas que Dieu avait des choses à apprendre, mais Dieu a dit, oh, je vais essayer de voir. Évidemment, on sait que Dieu est omniscient. Dieu n'avait pas besoin d'apprendre rien. Okay? L'idée ici, quand il dit, je veux voir, bon, il y avait une mise à l'épreuve qui était là. Okay? Il dit, je vais le mettre à l'épreuve pour que je voie. C'est parce que Dieu voulait manifester à Israël qu'il est fidèle à pourvoir. Donc, ici, ce n'est pas que Dieu avait besoin d'une information puis s'assurer, c'est que Dieu voulait que l'occasion de faire confiance à Dieu par rapport à sa fidélité à pourvoir, il voulait voir comment ces choses-là allaient tourner. Puis c'était vraiment pour que le peuple puisse voir la fidélité de Dieu à travers ça. Dieu voulait mettre en évidence, il voulait manifester la réalité du fait qu'il est fidèle, puis même si nous, on n'est pas fidèles tout le temps, parce que qu'est-ce que ça dit, là, je veux ici, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Dieu voulait mettre ça à l'avant pour le peuple de Dieu. Vous n'arrachez. Vous êtes, on le sait, là, quand on voit la suite des choses, là, c'était pas très reluisant, hein? Mais Dieu est demeuré fidèle. C'est ça que Dieu voulait faire. Puis c'est vrai aussi, dans un autre passage du Nouveau Testament, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Cette œuvre de sanctification complète, c'est Dieu, dans sa fidélité, qui le fait. C'est lui qui le fera parce qu'il a tout pourvu. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est l'idée. Là, je vais vous illustrer, puis on va faire du chemin vers la conclusion avec tout ça. Je suis encore dans le troisième point, là, mais là, je vais partir avec un passage qu'on va développer pour le reste du message. Connaissez-vous un Jean 2, 12 à 14? Les petits-enfants, les jeunes forts, puis les pères. Je vous le lis, OK? Vous rafraîchissez la mémoire. Vous le savez, mais vous ne vous rappelez peut-être plus de la référence. Je vous écris, petits-enfants, là, c'est 1 Jean 2, 12, là. Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, ça c'est la première catégorie. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, troisième catégorie de personnes, parce que vous avez vaincu le malin. Puis là, il répète, je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il se répète, ça fait partie de la pensée hébraïque, là. Jean fait ça beaucoup dans 1 Jean. Puis il termine en disant, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Bon. En fait, là, pour ceux qui se demandent c'est qui ces gens-là, qui parlent, je crois, en tout cas, puis je ne suis pas seul là, si on regarde les différents commentaires, c'est comme 3 catégories, 3 types de personnes dans une église. OK? Ça réfère à des étapes ou des stages de la maturité chrétienne. C'est ce que je crois. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, vous regardez par vous-même, mais hein, il y a beaucoup qui interprètent ce passage de 1. Donc, des degrés de maturité des enfants de Dieu, puis qu'on retrouve dans une église locale. Tu sais, il y en a qui sont à différents stages dans leur vie chrétienne. Les petits-enfants, ils savent 2 choses. Ils savent que leurs péchés sont pardonnés, puis qu'ils ont une relation avec le Père. OK? Ouais, c'est déjà bon. Ils peuvent connaître d'autres choses. Savoir, tu sais, connaître au sujet, mais vraiment ce qu'ils savent dans leur cœur, ce qui est une assurance, c'est ces 2 choses-là. Ils sont pardonnés, puis ils ont une relation avec le Père. Les jeunes gens, c'est intéressant parce que c'est eux qui ont le plus d'informations, c'est ce qu'on sait le plus sur eux autres. 3 affaires. Péché pardonné, eux autres aussi. Eux autres aussi, une relation avec le Père. Mais eux autres, ils ont vaincu le malin. La parole demeure en eux. Ils sont forts, ils ont vaincu le malin. OK? Oups! On voit un accroissement ici en maturité. OK? Sont forts par la vie de Dieu qui est en eux. C'est typique de la jeunesse. Ils sont fougueux, ils sont énergiques. Puis ça parle des pères. Là, je vous l'ai dit, moi, dans l'ordre, là, c'est drôle que Jean l'ait dit dans un autre ordre dans les versets, mais les pères, eux autres, c'est drôle, ça dit simplement que c'est, ça dit 2 fois la même chose, c'est, ils ont connu celui qui est, je suis, ils ont connu celui qui est dès le commencement. Ça ne parle pas qu'ils ont connu le pardon, ça ne dit pas les mêmes choses que les autres, mais ils connaissent la personne de leur salut, ils connaissent la personne de la délivrance. Ils sont au stade où est-ce que l'important pour eux autres, c'est plus que ce qu'ils connaissent, mais qui ils connaissent. Et ça, selon Jean, c'est l'aboutissement de la maturité chrétienne, c'est le qui. Ils sont arrivés à ce point-là. Développons un peu. Ces 3 groupes, d'abord, j'aimerais vous dire, là, ne sont pas en compétition. C'est pas les bons, les méchants, puis OK. C'est une famille. C'est la famille de Dieu. OK? Dans une famille, il y a des petits, il y a des grands, il y a des moyens, il y a des... OK? Bon. Donc, il n'y a pas ici une idée de rivalité là, ou d'animosité mutuelle. Vous savez pourquoi? Parce que, premièrement, un jeune Jean a été un petit enfant, puis un père a été un jeune Jean, puis un petit enfant. Fait que, tu sais, il y a vraiment ici... Ça s'entrecroise, OK? Mais Dieu a désigné les pères, les plus matures, comme étant pour être les leaders spirituels, c'est pas que les autres n'ont pas un rôle, parce que les jeunes gens sont au front, ils combattent, ils ont cette énergie de la jeunesse. Puis les plus jeunes, bien, ils grandissent, puis aussi, ils sont souvent l'objet des soins, parce qu'ils ont besoin, tu sais, des autres. Donc, tout ça, ça forme un tout. OK? Donc, il faut voir là-dedans, il y a quelque chose de beau, c'est la vie dans la famille de Dieu. OK? Mais le plus important à reconnaître dans tout ça, c'est que tous, qu'ils soient petits-enfants, jeunes gens ou pères, ils ont tous besoin d'aller à la même source, à Dieu, qui a pourvu Jésus pour chacun d'eux. Et c'est ça le plus important, la provision, c'est Dieu. Qu'on soit dans n'importe quel stade de notre vie chrétienne, nous avons tous le même besoin, la grâce de Dieu, à chaque jour, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, on va ici regarder un autre que, lettre, OK? Jésus qui dit dans Matthieu 5, 16, connaissez-vous Matthieu 5, 16? « Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Que votre lumière luise. » Ça peut sembler un peu abstrait, votre lumière luise, ce que ça veut dire, mais on peut voir rencontrer un côté très concret. Dans le fond, l'idée, OK, laissez Jésus briller ou déborder à travers vous autres, OK? Puis ça, je dirais, c'est simplement dans l'état dans lequel vous êtes. Donc là, pour faire un lien avec nos 3 catégories de personnes, si vous êtes ici un petit enfant, au début de votre vie chrétienne, laissez briller la naïveté enfantine de votre foi en Jésus. Puis tu sais, cette beauté qui donne même goût aux plus anciens, Oui, il y a cette belle simplicité de leur foi, une foi enfantine. Laissez briller ça. C'est attirant, c'est beau, c'est encourageant. Savez-vous, quelqu'un, quand il vient d'être sauvé puis qu'il arrive dans une église, il est un encouragement. Hein? Il dit, oh, c'est tellement beau. Il a trouvé la fraîcheur de cette foi. Laissez juste ça. Vous avez découvert la vie. Resplendissez de cette vie. Vivez cette étape en toute simplicité. Laissez ça briller. Laissez ça déborder. Vivez-le pleinement. C'est là que vous êtes. Essayez pas d'être un autre. Laissez Jésus briller dans l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes un jeune Jean, ça se dit un peu bizarrement, mais l'esprit de confiance et de courage qui vous anime, vous qui non seulement avez découvert la vie, mais qui voyez, waouh, hey, je grandis là-dedans puis je vois des victoires. Vivez ça pleinement. Si vous êtes un père, une personne plus mature, cette assurance, cette puissance sûre et fiable qui demeure dans la vie de Jésus, c'est un ancrage, c'est un point solide pour les autres. Laissez ça aussi. Comme, voyez-vous? Donc, que cette lumière que vous avez, qu'elle brille. Peu importe où est-ce que vous êtes, vivez cette étape-là. Vous savez pourquoi? Il y a quelque chose de, OK, on est content dans l'état dans lequel on est. Vous savez-vous quoi? On fait l'effort conscient, on coopère avec Dieu pour laisser cette grâce de la vie se manifester, le laisser contrôler. Mais aussi, je dirais qu'on aspire tous à aller plus loin. Si on est un petit enfant, on désire devenir un jeune gens. Si on est un jeune gens, on désire devenir un père. C'est correct, on veut grandir, OK? Puis, le but, c'est notre grand frère, c'est Jésus-Christ. C'est de s'approcher de lui, d'avoir ses sentiments qui est en lui. Donc, ça boucle la boucle avec ce qu'on a vu au début. Les sentiments qui est en Jésus-Christ, on aspire tous à ça. Et là, j'aimerais amener un point. C'est que notre grand frère a souffert et a appris par les choses qu'il a souffertes. Et pour nous, savez-vous quoi? Si on veut grandir dans la foi, il faut qu'on accepte la communion de ses souffrances. Il faut qu'on accepte, comme Jésus, de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Jésus est un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Fait que c'est beau de voir grandir, mais il faut voir qu'il y a un prix. Pas un prix effroyable et plate, puis que c'est donc terrible la vie chrétienne. Non, il y a un trésor. Un trésor dans cette souffrance, parce que Dieu est précieux. C'est là qu'on connaît notre Dieu, justement. Sa fidélité qui surpasse tout ce qu'on peut avoir même imaginé auparavant. Où est-ce qu'on accepte non seulement la souffrance, mais que la mort qui s'opère dans nos vies est le moyen par lequel Dieu manifeste sa vie? Connaissez-vous 2 Corinthiens 4, 11 et 12? « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » C'est là qu'on a notre repos. Savoir que, OK, en ce moment, c'est la mort. En ce moment, c'est l'épreuve. Mais il va sortir la vie, il va sortir la délivrance. Parce que Dieu est le Dieu fidèle et c'est le Dieu des délivrances. Et notre union avec Jésus, notre source de vie, Jésus, on est comme une branche qui est reliée à Jésus, la racine nourricière. C'est lui qui va faire ces choses. Et j'aimerais amener un point en terminant, c'est spécial. OK, quand on compare deux passages d'Écriture, on voit les Corinthiens, nos fameux Corinthiens, on les aime-tu? Ils font un peu dur, mais on apprend beaucoup des Corinthiens. J'aime beaucoup lire les lettres des Corinthiens. Savez-vous qu'à quatre reprises, ça nous parle, c'est Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui parle d'aspirer. Mais dans le contexte, c'était aspirer à des dons. La manifestation extérieure de la grâce intérieure, c'est ça l'idée du mot charisma. Et les dons spirituels manifestaient quelque chose par rapport à une réalité intérieure. Les autres, ils aspiraient à cette manifestation extérieure. Okay? Puis Paul n'en fait pas un reproche, mais il leur dit un peu, soyez ordonnés là-dedans. Aspirer au don des meilleurs, puis la chose la plus importante, c'est l'amour. Okay? Mais il y a un autre passage qui nous parle d'aspiration, et là, c'est différent, c'est dans Romains 12. Puis quand ça nous parle d'aspirer, ça ne parle pas de don extérieur, ça parle d'aspirer à ce qui est humble. Ça, c'est une disposition intérieure. C'est quoi qui est la clé pour la manifestation extérieure? Pourquoi ça n'allait pas bien à Corinthe?
avec l'exercice des dons, puis c'était pas mauvais en tant que tel, mais c'est parce qu'il n'y avait pas cette aspiration à la disposition. Il était orgueilleux. Il voulait paraître, plus être ceux-là qui ont les gros dons, qui paraissent, puis tout ça. Il n'aspirait pas à ce qui est d'abord la base, à l'humilité, qui va faire en sorte que ces manifestations extérieures vont être comme elles devraient être. Et donc, si on lit Romains 12, ben, gars, je vous lis d'abord, je vous référais à aspirer là, dans 12-16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Mais juste avant, au début du chapitre, au verset 3, Paul leur dit aux Romains, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes ou humbles, selon la foi que Dieu a départie à chacun. » Tu sais, Dieu est le Dieu des délivrances, mais il ne veut pas que dans notre vie, on recherche... Wow, le spectaculaire, puis tout ça. Puis Dieu peut permettre du spectaculaire et tout ça, mais l'aspiration, ça, c'est des manifestations extérieures. Mais l'aspiration profonde qui est la clé de tout ça, c'est l'humilité. De dire, Dieu, je vais accepter ce que tu m'envoies. Tu as peut-être un temps spectaculaire pour moi où est-ce que ça va être wow, Dieu, tu te manifestes, tu fais des délivrances extraordinaires. Ou peut-être que tu as un temps de désert pour moi. Peut-être que tu as un temps où est-ce que tu me demandes juste de garder silence puis il ne se passe rien dans ma vie. Mais cette disposition, lorsqu'on aspire à cette disposition humble, on accepte les deux. En fait, on accepte que ça ne nous appartient pas, les résultats puis la manifestation que Dieu veut faire. Comment Dieu veut se révéler, ça y appartient. Il peut se manifester dans un petit murmure léger, ou il peut aussi se manifester dans un fracas puis une grande manifestation de sa gloire. Ça appartient à Dieu. Pour nous, on aspire à avoir cette... disposition humble devant Dieu et devant les hommes. Et c'est tellement, ça se prête tellement bien une conclusion parce que qu'est-ce que Dieu dit? Il dit Dieu, il résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Donc si vous voulez la grâce de Dieu, si vous voulez le Dieu de l'impossible qui est à l'œuvre, qui délivre, qui fait ce que juste lui peut faire, c'est la clé. Dieu fait grâce à ceux qui sont disposés de cette manière-là, qui aspirent à avoir cette disposition-là, l'humilité. Et si vous êtes ici, vous n'êtes pas sauvé, ça commence là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pour arriver à ce point-là du salut, il faut humblement reconnaître qu'on a besoin, qu'on est perdu, puis qu'on a besoin d'un sauveur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Si vous expérimentez la délivrance du salut, vous serez plus confus. Vous allez savoir que vous êtes racheté par le sang précieux de Jésus. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez considérer cette délivrance qui a été faite une fois pour toutes pour votre âme, pour votre délivrance. Tout est déjà accompli, il vous reste à l'accepter. Et pour les enfants de Dieu qui sont ici, j'en appelle à tous et chacun à rechercher pas la délivrance, mais le Dieu de la délivrance. Comme je disais, c'est Dieu qui délivre comme il veut, puis quand il veut. Ça y appartient. Mais quand on a Dieu, on a tout ce dont on a besoin. Recherchons-le de tout cœur. Pas parce qu'il n'est pas là. Si vous êtes un enfant de Dieu, il vit en vous. Mais recherchons à le laisser complètement libre de vivre comme il veut, à travers nous, dans nos vies, puis qu'on puisse voir que Dieu rémunère ceux qu'il cherche. Ce n'est pas en vain qu'on recherche l'Éternel de tout notre cœur. Amen. Merci Seigneur que tu es le Dieu des délivrances. Merci que on a vu un texte qui a des milliers d'années, mais Seigneur, encore tu es aujourd'hui ce même Dieu d'actualité. Et Seigneur, c'est toi qui décides comment tu te manifestes. Ça t'appartient, c'est ton domaine. Mais nous, on veut te rechercher toi. Parce que Seigneur, on désire te voir à l'œuvre, te manifester. Et merci Seigneur que toi aussi tu veux ça, tu veux te révéler comme tu as voulu te révéler dans l'histoire d'Exode. Mais Seigneur, tu nous demandes d'avoir cette disposition face à toi, humble et de foi. On veut te faire confiance, Seigneur, pleinement, totalement. On s'en remet à toi, Seigneur, pour ce que tu as pour nous. C'est une nouvelle semaine qui commence. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On vient se reposer en toi. C'est une journée de repos aujourd'hui. Repos en Jésus. Merci qu'on peut être ensemble, ton peuple réuni. C'est bon d'être dans ta maison ce matin. Merci pour ce temps. Et alors que ton peuple veut répondre à ce que tu as communiqué ce matin, que tu guides et tu diriges, Seigneur. Merci encore une fois pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen.